France Inter,
franceinter.com.
Bonne année France Inter, bonne année Daniel, bonne année à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, et puis allez, je suis parti. Bonne année à la Chine qui continuera ses pratiques particulières des droits de l'homme. Bonne année à l'Iran qui continuera de faire la sourde oreille quant à ses manigances nucléaires. Bonne année aux États-Unis qui continueront de polluer inlassablement. Mais surtout, bonne année aux AMG en situation difficile ou plus aisée. Et bonne année aux personnes qui sont seules. Voilà, on les embrasse tous. Bonne année.
Bonjour à tous. Ce coup de fil pour vous tenir au courant que dans la Nièvre, à Dessis précisément, nous entrons en résistance contre la fermeture de notre maternité et par là même, l'agrandissement du désert médical. Nous voulons qu'un maintien de l'égalité d'accès aux soins soit possible pour les habitants du sud Nivernais-Morvan. Pour soutenir cette mobilisation, retrouvons-nous le jeudi 7 janvier à 18h, salle des fêtes Théodore Gérard, à Dessis. Seule la mobilisation de tous peut sauver notre maternité. À bientôt.
Qu'est-ce que j'aime ces émissions. Vraiment, c'est un pur régal. Merci encore à Daniel Mermet et à toute son équipe. Merci et j'espère que ça va durer bien longtemps, cette diffusion, parce qu'elle est extraordinaire. Merci encore, c'est Aurelga. Au revoir.
Copenhague, tu y croyais. Enfin, on allait tout changer. Cette fois-ci, c'était gagné. Les utopies concrétisées. Toutes les politiques rassemblées. Opinion publique mobilisée, du bébé phoque au rat musqué, toutes les espèces protégées, d'Amazonie en Arctique gelée, d'Océanie en Méditerranée, hôtel de la diversité. Tu attendais, tu espérais, on te le dit à la télé,
la politique s'est dépassée,
comme le journaliste zélé.
La politique s'est dépassée.
Toutes nos élites persuadées
que la politique s'est dépassée.
Les chars du showbiz motivés.
La politique s'est dépassée.
Tous les sportifs iconisés.
La politique s'est dépassée.
Pour sûr que t'as pris un coup de trique.
Tu voulais pas faire politique.
Tenez écolo pragmatique.
Tu voulais pas faire politique.
Si aujourd'hui je te fais la nique, c'est pour que tu fasses la politique.
Pour que tu changes tes pratiques.
Et que tu fasses la politique.
Bonne année 2010, les repères reprennent à Tourette, aux latitudes. Le vendredi 8 janvier à 19h, on ne connaît pas le thème, mais c'est pas grave, vous passerez un coup de fil. Et puis, une petite pensée pour Brigitte Fontaine en 2010. On va descendre dans la rue. Ciao, viva, portez-vous bien.
Bonjour, Sylvie de Belfort. Je viens de réécouter le reportage sur Potosi. Ça me rappelle le voyage que j'y ai fait il y a de ça quelques années. En entendant le nom donné aux mines des noms de saintes et en comparant ça avec la richesse qui est dans les églises catholiques et dans les couvents à Potosi, je me dis que le don et le contre-don ont été bizarrement interprétés par les Européens. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu vrai aujourd'hui qu'on pense à l'exploitation des mines de lithium, par exemple, du Salar, du Uyuni, en Bolivie aussi. Voilà. Bonne année à tous. Continuez. Bye.
Bonjour, c'est Robin de Haute-Corse. Très très bien vos émissions, et quelle fin d'année. Mardi, le patron de Valeo qui témoigne avoir au cours de sa carrière délicatement orchestré la destruction de 800 emplois au sein de son propre groupe et chipote à dévoiler sa rémunération annuelle, prétextant que l'image du patronat est suffisamment dégradée, patati patata. Du coup, ça aiguise ma curiosité. Bingo, 1 400 000 euros à l'année, pépère. Ça n'a pas l'air de lui dégrader ni la conscience, ni le porte-monnaie. Mercredi, home, avec son maître Tartuffe, qui m'a vraiment fait penser à un autre auteur classique parlant des bouffons qui dénoncent les effets dont ils chérissent les causes. Très très bien vos émissions, qui nous encouragent à être vraiment moins cons. Ciao.
Ben, cher Daniel, j'essaye de vous écouter tous les jours. Je vous souhaite à vous et à votre équipe plein de bonnes choses et plein de reportages très intéressants. On a besoin de vous, Daniel. Vous êtes une référence dans la contestation. Je suis comme la dame qui a parlé aujourd'hui sur les répondeurs. J'éteindrai ma télé à 8 heures. Je ne veux pas écouter M. Sarkozy. Je vous souhaite plein de bonnes choses de Nice. À bientôt, Daniel.
Bonjour, ici Frédéric à Paris. Petite lecture instructive aujourd'hui, désormais à la Banque Populaire, dirigée par l'ami de Nicolas Sarkozy. Pour avoir une autorisation de découvert, ce qui est déjà pas très amusant, il faut souscrire une assurance vie. Et là, je lis à l'article 7 de mon contrat les risques non garantis, c'est-à-dire que le découvert en cas de décès ne serait pas précisément couvert. Donc évidemment, en cas de suicide, c'est exclu, de l'usage par l'assuré de stupéfiants, de médicaments, d'une explosion atomique, d'effets indirects de la radioactivité, de la guerre, etc., etc. Et tout d'un coup, en cinquième ligne, ou de la participation active de l'assuré à des émeutes, grèves, mouvements populaires ou actes de terrorisme. C'est-à-dire qu'on assimile donc à la Banque Populaire à un acte de terrorisme, c'est dans la même ligne, à une guerre étrangère ou une participation à des émeutes, la grève, qui est un droit évidemment constitutionnel. Donc voilà, c'est la Banque Populaire qui était populaire autrefois avec raison et qui nous fait signer des papiers absolument hallucinants. Au revoir.
Salut Daniel, je suis contente de vous, comme disait Napoléon au masculin bien sûr. Vous êtes redevenu ce que vous étiez. Et ça me fait chaud au cœur. Et je vous embrasse. C'est Yvette de Toulouse. Au revoir.
Yvette, bonne année Yvette. C'est un bonheur de vous entendre ce début d'année 2010. Pour ceux très rares qui ignoreraient qui est Yvette, c'est une très ancienne auditrice, pas seulement auditrice, mais aussi qui a été la protagoniste d'un ancien numéro, très ancien numéro, de La Basse J'y suis à Toulouse, ça s'appelait L'amour aveugle. On a rediffusé cette émission dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de La Basse J'y suis, pensant que Yvette avait peut-être disparu et on a eu le bonheur et la surprise d'avoir la voix d'Yvette à la fin de l'émission, lui disant « mais je suis toujours là, et j'ai une belle vie, et j'ai rencontré l'amour, et j'ai dépassé 90 ans, et tout va bien ». Alors, voilà une bonne façon de commencer cette année nouvelle. Merci pour tous vos messages, vos encouragements, et vous dire à quel point chaque jour, ces messages, la musique de ces messages nous plaît, il y a quelque chose de la France là, qui se manifeste chaque jour en début d'heure, et mille merci pour ça. Et je ne dis pas ça par hasard, parce que là on va revenir sur une émission, un morceau choisi de 2009, de La Basse J'y suis, et on va aller dans une France insoupçonnable et insoupçonnée. C'était à Saint-Pons de Thomières, dans le Haut-Languedoc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, il y avait là des gens qui étaient accusés d'être des corbeaux ou de cacher un corbeau, la cellule 34 qui depuis la fin 2008 adressait des lettres de menaces, parfois accompagnées d'une balle et adressées à des personnalités, ministres, etc., de droite, dont notre bien-aimé président de la République. Or, un matin, les habitants de cette paisible petite cité de l'Hérault ont vu une armada policière cerner le village, perquisitionner 11 des maisons des habitants de cette localité et en embarquer un certain nombre pour questionnement, garde à vue, etc., etc. La suite a montré qu'il n'était en rien responsable de cette ténébreuse affaire, mais l'émoi a été très grand, le soutien du village total, et ça nous avait donné, avec François Ruffin, l'occasion de soulever un voile d'une France très méconnue de la part des malins urbains que nous sommes, qui connaissent si mal la France, qui connaissent si mal le pays réel. Là, aujourd'hui, on va voir les développements que cette histoire peut susciter et découvrir un peu, pour s'encourager, pour partir du bon pied, cette France résistante, insoupçonnée. Auparavant, encore quelques messages choisis avec Catherine Pinto, quelques messages comme ça qui nous ont émus, qui nous ont amusés ou révoltés au cours de ces dernières semaines. Bonne année à tous et bienvenue chez les papis de Saint-Pons.
Maman, je viens de faire un cauchemar horrible, ma petite maman. J'ai rêvé que je t'emmenais dans une maison pleine d'inconnus. et que j'en repartais sans toi, sans même te regarder. Je me suis réveillée, ma petite maman, et je suis descendue te regarder dormir dans ta chambre. À ce moment-là, tu t'es réveillée et tu m'as demandé pourquoi je pleurais. Je n'ai osé te répondre, maman. Je t'ai pris simplement dans mes bras et je t'ai serré très fort en te disant que je t'aimais. Mais que j'avais fait un cauchemar, mais que c'était certainement dû à une émission que je venais d'écouter à la radio. J'avais envie de te dire aussi, maman, que si un jour tu dois partir pour une ultime demeure, ce sera au milieu de tes enfants, maman, et au milieu de cet amour que tu nous as donné toute ta vie. Je t'aime, petite maman, et je ne te laisserai jamais pourrir dans un endroit comme il en existe de plus en plus.
Aujourd'hui, nous sommes tous des Américains. Le président Obama a gagné le prix Nobel de la paix et j'aimerais, en tant qu'Américaine expatriée à Lyon, exprimer mes profonds sentiments en rapport avec cette remise de prix si méritée. Pour partager ma pensée, je vais me servir des mots de M. Paul Craig Roberts, qui exprime parfaitement mon émotion dans un article qu'il a publié sur le site web Information Clearinghouse le vendredi dernier. Excusez-moi pour mes lacunes dans l'art de la traduction. Il écrit « Le comité du prix Nobel a remis le prix Nobel de la paix 2009 au président Obama, la personne qui a démarré une nouvelle guerre au Pakistan, qui a amplifié la guerre en Afghanistan et qui continue à menacer l'Iran d'une attaque imminente. Obama a créé un nouveau climat dans la politique internationale, déclare le comité dégoulinant d'emphase. Il faudrait expliquer cela aux 2 millions de Pakistanais déplacés ou tués pendant les quelques mois de présidence de M. Obama. Faudrait faire comprendre ce nouveau climat aux Afghans qui voient le taux de mortalité de la population civile augmenter de jour en jour, tandis que la guerre dite de nécessité de M. Obama se prolonge indéfiniment. La politique Bush n'a point changé, l'Irak est toujours occupé, Guantanamo, prison de la torture, continue à fonctionner. La liberté des citoyens continue à être bafouée et violée au nom d'une guerre nébuleuse contre le terrorisme. Fin de citation. L'illustre marchand de guerre Henry Kissinger, qui, comme tout le monde le sait, est responsable d'un nombre incalculable de morts en Amérique latine, ainsi qu'au Vietnam et au Cambodge, a aussi reçu ce prix Nobel de la paix. En fait, l'initiateur du prix lui-même, Alfred Nobel, fabricant de dynamite, de gélinite et d'autres armes de guerre, était aussi un marchand de guerre. Par conséquent, le marchand de guerre Obama est sans doute le candidat le plus méritant de ce prix dit de la paix. Puisqu'aujourd'hui, comme l'avait prédit l'écrivain George Orwell, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, le mensonge, c'est la vérité. Oui, aujourd'hui, nous sommes tous des Américains. Merci.
Vous qui êtes le patron d'une entreprise française, que répondriez-vous si une petite voix vous glissait à l'oreille?
Allons, n'hésite pas. Maintenant que tu as touché tes subventions, tu fais un plan social, tu vires tes ouvriers et tu délocalises, ni vu ni connu, tes usines en Roumanie. Ça devrait te faire gagner quelques millions de plus cette année. Avec le bouclier fiscal, ça n'est pas négligé. Alors là, je dis non. C'est parfaitement légal et immoral, mais ça risque de coûter très cher à la société. C'est tout le monde qui serait perdant, à savoir moi et mes actionnaires. Vous croyez qu'ils sont idiots ? Ce serait une faute de délocaliser en Roumanie alors que la main-d'œuvre chinoise nous coûtera 10 fois moins cher.
C'était un message de l'union des grands patrons qui ne sont jamais assez gavés et qui se permettent de culpabiliser des salariés qui sous-payent.
Une lettre postée dans l'Hérault, à l'intérieur, une balle de 9 mm assortie de menaces de mort. C'est ce qu'ont reçu 7 élus et hommes politiques depuis quelques jours, à commencer par Nicolas Sarkozy.
On sait depuis le début que l'expéditeur pourrait se trouver dans la région de Montpellier. C'est justement là que 9 personnes ont été interpellées ce matin.
Je fais un appel aux membres du MEP, à tous ceux qui ont été perquisitionnés. Allez à la Cigale, vous deviendrez français et des citoyens.
Depuis un an, la cellule 34, alias les 1000 combattants, menaces de mort, courriers anonymes et munitions à l'appui, une dizaine de personnalités UMP. L'affaire est suivie de près à l'Elysée.
À la place des Junots de Tarnac, c'était les papilles de Saint-Ponce. Quoi.
Presque, presque.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec François Ruffin, le corbeau et la cigale.
flight number 2, arriving from Tokyo.
Donc là, on se trouve au Tanek, ah non, à la Tanek.
C'est un magasin associatif. Le but de l'association, c'est que ce sont des gens qui vivent au pays et qui travaillent au pays. On n'accepte que les produits fabriqués par des gens qui vivent ici.
Ouais, moi, je ne vois pas de magasin. Je vois une cocotte minute en train de cuire.
Là, on a fait un S de sanglier, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer. Et le magasin est juste la porte à côté. Là. C'est un tout petit magasin. On est,
C'est quoi un S de sanglier ?
Sauter. On a déjà eu les caches de l'ETA, il paraît. Alors, tu vois, je veux dire, moi, c'est, je ne prononce plus ces mots. Je vendange, donc j'ai appris un soir que des amis, des copains avaient des emmerdes. Que Marcel est carrément en garde à vue, à 70 ans, voilà, avec sa compagne pratiquement en larmes. Voilà, moi, c'est ce qui me bouleverse. Le reste, franchement, c'est comme si on m'avait dit qu'ils avaient été sur la Lune, quoi. Puis on a décidé de faire une manif le samedi.
Et après, on a appris quand même, eux qui étaient en garde à vue, à 14 heures, c'est-à-dire à peu près au moment où nous, on a décidé de rassembler tout le monde, eh ben, ils ont senti un changement dans l'interrogatoire. C'est devenu beaucoup moins sévère. Et ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Bien sûr, ils étaient loin d'imaginer qu'il allait y avoir 200 personnes devant la mairie de Saint-Paul. Et puis surtout, on a commencé à avoir des coups de fil. Ah ben, il y en avait un qui était sorti, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis en fait, ben, à 18 heures, notre copain est sorti. Ils ont lâché Marcel. Ils en avaient lâché quelques-uns avant. Et à 20h, ils ont lâché le dernier, Blondeau. Là, on était très contents, on avait réussi quand même.
Donc finalement, c'est efficace, les manifs.
En tout cas, là, ça a été efficace. Pour en avoir discuté entre nous, tout ça, bon, moi, je pense qu'on a évité un second arnaque. Hein, parce qu'il n'est pas dit du tout que pour des histoires sordides qu'on ne maîtrise pas, ben, ça n'avait pas été intéressant. D'abord, ce qu'on s'est dit, c'est que bon... Personne n'a dit « oui, c'est machin » parce qu'il s'est passé que donc 60 heures de garde à vue. Mais à la 90e, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on a appris. Bon, le copain restait 60 heures les menottes aux mains, assis sur un tabouret, dépression psychologique forte, pas manger, pas dormir. Qui résiste à ça ? Donc il suffit qu'il y en ait un qui dise « ben oui, c'est machin » et puis c'est plus la même histoire du tout. Et on se retrouve avec un de ceux-là, bon, probablement Blondeau puisque c'était lui qui semblait être le coupable désigné. Et il se retrouve, il partait à Paris. D'ailleurs, la police lui a dit hein, « nous après, on vous embarque à Paris ». Alors là, c'est une autre histoire. Donc je pense qu'on a évité un second arnaque.
Voilà, c'est leur interprétation. Les gens du village se sont montrés solidaires de ces 11 qui, donc, ont été interpellés, puis remis en liberté après interrogatoire et garde à vue. Parmi les personnes interpellées, il y avait un buraliste, un ancien légionnaire, déjà entendu mi-août dans l'affaire, un chirurgien dentiste, un architecte, un notaire, etc. etc. Une population très variée, ce qui fait que c'est toute la population qui a réagi tout à fait outrée, presque outragée, que certains des habitants puissent être soupçonnés donc d'être les corbeaux qui envoient, vous le savez, depuis la fin 2008, des lettres avec, pour certaines, une balle à l'intérieur, une balle de 9 mm de 38 et adressée à des personnalités, presque exclusivement des personnalités de droite, et parmi lesquelles le président de la République qui, évidemment, a mandaté ses plus fins limiers pour mettre la main sur le corbeau. Mais le corbeau court toujours et on a bien cru, il y avait beaucoup d'indices presque caricaturaux, on a bien cru que c'était quelqu'un dans ce village et plus précisément un certain Pierre Blondeau qui est un personnage, comme on dit, haut en couleur, qui tient un bureau de tabac qui s'appelle La Cigale et qui est un bureau de tabac comme tous les bureaux de tabac français, sauf que dans l'arrière-boutique, il tient régulièrement, chaque semaine, une réunion de la cellule locale du Parti communiste français. Et ben là, on refait le monde, on se tape la cloche. Et surtout, on lutte sur des choses locales, des implantations d'éoliennes industrielles, des projets tout à fait locaux. Et puis, on a pour adversaire le maire de cette petite ville Saint-Pons de Thomières. On a observé qu'il ne fallait pas dire village et que ça, c'était bien un truc de parisien. Saint-Pons de Thomières, c'est une petite ville. Dont acte, je le répète. Donc voilà, il y a des enjeux locaux qui peuvent faire sourire, mais qui sont bien plus profonds que ça, qui disent des choses beaucoup plus profondes. On est dans l'Hérault, on est dans le Midi Rouge, il y a une culture ancienne. Et puis, et voilà, c'est la vie quotidienne de notre République. C'est ce qui sera dit, ce sera la dernière phrase de cette émission. D'ici là, là-bas, si j'y suis, jusqu'à 16h.
T'as vu les infos ?
C'est pas vrai, c'est dingue.
C'est dingue.
J'y crois pas. Arrête, non, tu déconnes.
J'y crois pas.
C'est pas possible. Tu rigoles ?
Putain.
Je vois pas qui c'est.
C'est pas possible.
Tu me l'apprends, mais je suis pas surpris. J'en étais sûr. J'y crois pas. C'est horrible, hein ? Attends, y'a encore plus drôle. Comme quoi, y'a pas de fumée sans feu. Les chiens ne font pas des chats, il manquerait plus qu'ils s'en sortent. Au village, c'est la stupéfaction.
J'y crois pas.
Ils n'auraient jamais dû revenir. On voudrait juste comprendre. Je t'ai pas reconnu. Maintenant, il doit payer. On n'a rien vu venir. Tout se joue à l'école.
Il faudrait être.
Moi je me suis toujours méfié, y'a pas assez de contrôle.
C'est tous ces mots de l'or.
C'est mon choix. C'est pas la première fois dans la famille.
Tu rigoles. Les camarades de quartier, c'est bon.
Les juges bouffent à tous les râteliers.
Tu sais comme eux.
T'es comme les autres. Maintenant il doit payer.
Il était comme les autres.
On n'a rien vu venir.
On n'a rien vu venir.
C'est à bout. C'est bien le système français. C'est une naissance, on peut rien y faire.
Je
suis avant, mon père est flic.
Comme le cousin,
l'autre
avec sa tête de fou.
Après, il y a eu un grand silence.
Il ressort blanchi comme 9 autres défenseurs de l'environnement après 3 jours de garde à vue. Pierre Blondeau, le buraliste de Saint-Pons de Thomières, n'est pas le corbeau qui menace Nicolas Sarkozy.
TF1, 6 septembre 2009.
Il avait été arrêté sur la base d'une expertise graphologique. Son écriture ressemble à celle de l'enveloppe de la première lettre de menace expédiée en 2007 au maire de Lamalou-les-Bains, commune où se trouvent beaucoup d'éoliennes. L'affaire est suivie de très près par l'Élysée. Les policiers ont une obligation de résultat. Les policiers privilégient toujours la piste des mouvances extrémistes au nord de Béziers.
1,50€ s'il vous plaît, monsieur. Tenez, merci. Fais-moi.
Donc là, vous rangez vos bingos.
Là, je range les bingos, je range les jeux. Je me remets un jour de 5 jours où je n'ai pas pu faire ma comptabilité correctement. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, que ça devient un peu plus calme.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on pense que c'est vous le corbeau, c'est quand même qu'il y a une raison.
Ouais, non, mais elle n'a pas fumé sans feu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été guillotinés, qui n'auraient pas dû. La question auquel je n'ai pas encore résolu, c'est pourquoi de statut d'emmerdeur local, je suis passé au statut d'emmerdeur national.
Voilà, Pierre Blondeau. Celui qui a Blondeau. Alors voilà, on a décidé que c'était pas lui, et pourtant beaucoup d'indices pourraient le laisser croire. Et ce qui est étonnant quand même dans cette affaire, qui n'est toujours pas résolue, c'est la qualité quand même des services de police qui sont mobilisés. 4 services de police, dont la prestigieuse crime du 36, quai des Orfèvres, et les flics spécialisés de la sous-direction antiterroriste participent à la traque de cet ennemi public, le ou les déséquilibrés, qui ont pris l'habitude d'adresser
à la crème, aux hiérarques de l'UMP et aux têtes d'affiche de ce beau pays, des menaces de mort, souvent accompagnées d'une balle de 9 mm. Alors, comparé, on a fait des comparaisons d'écriture et humour de ces messieurs de la police, la dictée qui a été faite, ordonné, donc, c'était le corbeau et le renard. Donc, il a fallu que chacun des interpellés se soumette à cet exercice, le corbeau et le renard, afin qu'on puisse faire des comparaisons, évidemment, graphologiques. Et il y a un élément de l'enquête qui dit « Ah oui, voilà, c'est la même écriture que celle de Pierre Blondeau ». Mais une fois l'enquête poussée à son terme, eh bien, Pierre Blondeau a été libéré.
On a quand même, avec mes amis, mes camarades, fait tomber beaucoup de projets de multinationales. Des poubelles à ciel ouvert, que ce soit des éoliennes, que ce soit des projets de spéculation foncière dans la vallée. On a dû faire perdre quand même beaucoup de fric, beaucoup de pognon à des gens. Donc ça explique pour moi en partie la raison qu'ils ont voulu ratisser large dans les hauts cantons pour voir un petit peu quelle était cette mouvance qui est quand même assez hétéroclite au départ.
90 centimes, s'il te plaît.
Pendant que vous comptiez vos bingos, derrière, on entend que ça parle de l'Union soviétique, de Malatesta, de Gracchus Babeuf. Dans la boutique devant, on vend la Française des Jeux, et dans la boutique derrière, on refait le monde.
Tout à fait, c'est tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui fait fantasmer beaucoup de gens, en commençant par les services de l'ordre et les autorités en général. C'est aussi un peu le mur des lamentations, parfois, parce que c'est aussi le siège du Secours populaire. Parce qu'on a aussi une action humanitaire, entre guillemets. On supplée l'Amérique. Ils ont supprimé la banque alimentaire depuis 5 ans. Et nous, on a ouvert le Secours populaire depuis 4 ans. Donc,
qu'est-ce que vous faites ? Vous distribuez des colis ?
Oui, on distribue des colis une fois tous les 15 jours, le vendredi après-midi.
Local du Secours populaire, c'était une cache d'armes ?
Ah non plus. C'est des vêtements qu'il faut qu'on lave pour distribuer après, soit qu'on vende sur les marchés pour faire de l'argent pour le Secours populaire, ou soit tout simplement qu'on donne aux gens. Non, c'était... Ils n'ont pas tout d'ailleurs perquisitionné, ça aurait été infernal, il aurait fallu au moins 3 jours.
Et donc vous arrivez à Montpellier ?
Alors à Montpellier...
On vous donne à manger, on vous laisse vous reposer ?
Non, on m'a pas donné à manger, j'ai pas bu et mangé pendant 60 heures. Et en plus, surtout, là, je n'ai pas pu boire, ce qui m'a été plus souffert pendant... J'ai bu 2 verres d'eau en 60 heures.
Bon, vous dormez normalement la nuit ?
On ne dort pas du tout. Toute la journée, après, j'étais auditionné. La deuxième nuit, ça a commencé l'interrogatoire de 18h à 7h du matin. On a fait une pression en me disant, si vous avouez, on relâche immédiatement tous vos camarades et compagnie, c'est vous qui êtes responsable, tout dépend de vous et compagnie. Donc il y a quand même un chantage tout à fait inadmissible. Ils m'ont réinterrogé, mais là j'ai senti que ça commençait à devenir bon, qu'ils allaient me relâcher, puisqu'au départ ils devaient m'emmener à Paris, voir le juge là-bas, prendre l'avion ensemble et compagnie. Et là j'ai senti qu'ils lâchaient prise, qu'ils n'avaient rien.
Finalement, c'était pas vous le corbeau pour l'instant.
Ah bah non, moi c'est pas moi le corbeau, mais pour l'instant et même après. Mais ça fait chaud au cœur lorsque vous arrivez au bout de 62 heures, que vous avez 200 personnes qui vous attendent, qui vous payent le resto et compagnie, c'est quand même sympa. Lorsqu'il y a des vieux, des catholiques, des mémères très sympathiques qui vous disent « j'ai été mettre des sièges pour vous », ça fait chaud au cœur, même si le coup du cierge, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est quand même très très sympa. Lorsque le prêtre vient vous dire bonjour, vous serrer la main et vous embrasser, c'est sympathique.
C'est comme si, en voulant vous mettre une cagoule, en vous emportant les menottes dans le dos, en vous mettant, en vous dénonçant comme corbeau, comme terroriste, et ainsi de suite, finalement, on vous exclut de la communauté, symboliquement.
Ouais,
et finalement, le retour au village, là où vous dites, il y a des catholiques, il y a le prêtre, il y a tout le monde, sauf le maire et les adjoints, ça signifie symboliquement le retour dans la communauté.
Tout à fait, on est accepté, il y a des vieilles dames là qui sont venues me donner un billet de 10 euros pour me soutenir, pour pouvoir, parce qu'on a vu qu'on faisait une petite fête avec des grillades et tout, qui sont venues discrètement nous donner leur petite obole. C'est quand même sympa. C'est moi.
Pierre Blondeau. Il a passé 62 heures en garde à vue après l'opération antiterroriste de la semaine dernière.
TF1, 9 septembre 2009.
Opposant politique virulent, ancien militaire, amateur d'armes. Dans l'affaire du corbeau, il a rempli le rôle du suspect idéal avant d'être remis en liberté. Ce militant acharné anime un groupe qui partage ses idées et se réunit dans son arrière-boutique. Et ce sont 10 autres membres de ce groupe que les policiers ont aussi interpellés avant de les relâcher. Ce matin, place de la mairie, ils étaient plusieurs dizaines à dénoncer ce coup de filet très ciblé.
Donc là, on arrive devant l'hôtel de ville, Hôtel des Finances. Il y a une Marianne tenant un flambeau de la liberté. Il y a des gens qui portent des drapeaux du Parti communiste français avec la faucille et le marteau.
Je viens manifester, c'est pas la première fois, parce que je soutiens des personnes. Je suis une très vieille symponaise. Je soutiens des personnes qu'on a arrêtées sans preuve.
Vous êtes communiste aussi ?
Non.
Surtout non. Ça n'a rien à voir avec les communistes. Hein.
Non, monsieur, je ne le suis pas. Au contraire, je suis bien de l'autre côté.
Voilà.
Mais le problème n'est pas là, parce que pendant la guerre, moi, j'ai vu arrêter des gens qui n'avaient rien fait et qu'on a tué, monsieur.
Voilà, bien sûr.
Et alors je leur ai dit, vous savez ce que ça me rappelle, la Gestapo ? Voilà. Et bien, vous savez... J'ai vu des morts devant mon jardin. Et j'ai vu des gens qu'on avait arrêtés de mon quartier que je connaissais. Alors vous savez, moi ça, je suis chrétienne, catholique convaincue. Donc c'est pas du tout mes idées. Mais je connais ces personnes, c'est des gens honnêtes.
Ben, oui.
Vous vous rendez compte, les faire coucher par terre, faire ce qu'on leur a fait.
Oui, ça va mieux là. J'ai écrit un petit texte qui a été diffusé dans la commune. Pierre me demande de le dire, ce que je vais faire à titre de conclusion. J'accuse le plus haut niveau de l'État d'avoir lancé une rafle spectaculaire dans nos hauts cantons. J'accuse Nicolas Sarkozy d'avoir exigé des résultats contraignant tous les services de police à foncer dans le tas. J'accuse la DNAT, Direction nationale de l'antiterrorisme, d'avoir mené une enquête purement médiatique au mépris des règles classiques des opérations de police. J'accuse une certaine presse d'avoir bien légèrement repris en cœur et en boucle, sans les vérifier, des informations préjudiciables aux organisations démocratiques. J'accuse le premier magistrat de notre ville de tenir des propos pour le moins ambigus, au point qu'on pouvait se demander s'il n'était pas content du tour que prenait l'affaire. Je l'accuse, ainsi que son entourage, d'avoir laissé se dérouler la rafle sans la moindre réaction ni protestation. Les victimes qui ont subi ces bavures policières ne sont-ils pas des citoyens de ce pays ? Et qui dois-je accuser du fait que les personnes qui ont été inquiétées sont strictement des personnes qui se sont opposées, pour une raison ou pour une autre, à notre député-maire. C'en est terminé.
Donc là, devant l'hôtel de ville de Saint-Pons, sous la statue de la République, sous la Marianne, qui porte les tables de la loi République française, liberté, égalité, entre les drapeaux tricolores, on range les chaises. Il faut aller le voir, le maire, là.
Il est pas là, je crois.
Ouais, je vais aller voir, quand même. Donc là, on va rentrer à la mairie, puisque, en fait, il n'y a pas... C'est vrai, le maire n'est pas là, alors que ça rassemble quand même 200 personnes devant sa commune, il y a tous les médias. Toutes les accusations semblent dire que c'est le maire de la ville, le député maire, qui aurait, en fait, livré les noms de ses opposants. Il y a un panneau avec marqué « Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au bureau suivant ». Bonjour, excusez-moi, j'aurais voulu rencontrer monsieur le maire.
Il est absent.
Il est absent.
Nous n'avons vu aucun adjoint.
Il n'y a aucun adjoint qui passe aujourd'hui.
Non, ça
passait. Et vous voyez comment...
Vous voyez le secrétaire général.
Bonjour.
Vous cherchez les élus ?
Oui, tout à fait, oui.
Malheureusement, on n'en a pas.
Parce que ce qu'il raconte, c'est qu'en gros, la personne qui aurait livré les noms des gens à la DNAT, la Direction nationale de l'antiterrorisme, ça serait... Monsieur le député maire, quoi.
Écoutez, en ce moment, hier il était là, aujourd'hui il n'y est pas. Voilà, essayez de l'appeler par son secrétariat.
Et vous savez s'il y a eu des contacts entre la mairie et la Direction nationale de l'antiterrorisme ou...
Alors là. Écoutez, vous lui poserez la question en direct, mais alors là, moi j'ai aucune information sur le sujet.
Bon, eh ben, on a fait chou blanc, ça s'appelle, hein. Mais il y a le téléphone.
aussi, avant nous, appelé le maire de Saint-Pons pour qu'il nous donne quelques précisions. Kléber Mesquida, il s'appelle, et donc vous avez entendu, député maire, pardon, qui est soupçonné, voire même accusé par ses administrés d'avoir donné la liste de ses opposants aux forces de l'ordre.
Allô ?
Allô, monsieur Mesquida ?
Oui.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous redéranger. Je vous appelle parce que je me suis rendu la semaine dernière à Saint-Pons de Thomières, dans la ville dont vous êtes le député maire.
Oui.
J'ai assisté à la conférence de presse des gens qui ont été mis en examen et puis relaxés.
Oui.
Ils mettaient en cause leur député maire. Il y a une coïncidence troublante dans le fait que toutes les personnes qui ont été mises en examen sont soit des opposants politiques directs à vous, qu'il s'agisse de M. Blondeau avec sa feuille La Commune,
ouais.
Qu'il s'agisse du notaire également, du boucher, du dentiste, enfin tous qui étaient à l'UMP, ou aux radicaux de gauche, ou au Parti Socialiste, ont été vos opposants. Ou alors, les autres ont été des opposants à vos projets, qu'il s'agisse des méga-décharges ou des éoliennes. L'interrogation revient, comment ça se fait que tous ceux qui ont été pris, qui ont été raflés, disent-ils, soient, par coïncidence, des gens qui se sont opposés à vous ?
Vous parlez de ces personnes-là. Oui, certes, elles sont dans une opposition que j'ai toujours reconnue comme républicaine. Donc, pour moi, c'est une opposition normale, et en toute démocratie, eh bien, c'est bien qu'il y en ait une. Donc, je vois pas du tout le rapprochement. Si tant est qu'ils puissent me suspecter d'avoir des rapports privilégiés avec l'Élysée, alors là, c'est vraiment risible, quoi. Moi, en ce qui me concerne, la seule chose que m'a demandé, pas les services de police de Paris, mais le SRPJ, c'est quelques exemplaires du journal de la Commune. Donc, comme c'est un journal qui est distribué au grand jour par M. Blondeau, qui est envoyé dans toutes les communes de l'arrondissement, je n'ai vu aucune objection à lui communiquer toutes ces éditions de la Commune qui, depuis 4 ans, pleuvent régulièrement sur la région.
Et le dernier point, c'est pour les personnes qui ont été raflées, disent-elles, c'est l'absence du maire, l'absence de ses adjoints, par exemple lors de leur retour samedi dernier, où pourtant ils ont par exemple été accueillis par le prêtre, par des personnes catholiques, il y avait un peu tout le monde, sauf, ont-ils remarqué, des personnes qui portaient une écharpe tricolore, quoi.
Écoutez, ce jour-là, d'abord, on n'a pas été averti officiellement que ce jour-là, ils étaient de retour. Ce jour-là, ce samedi, j'étais personnellement sur deux inaugurations à Maraussan et à Colombier, pas très loin de Béziers. Donc, je n'ai appris que le soir tard en rentrant qu'ils avaient été libérés. Donc, ils peuvent faire des procès d'intention qu'ils veulent. Pour moi, nous avons agi d'une manière discrète. Devant ça, je les laisse à leur spéculation. Ils sont dans une parano depuis plusieurs années. Je souhaite qu'ils en guérissent et qu'on tourne une page. Mais s'ils veulent continuer, je les laisserai faire. Je ne répondrai jamais.
Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service. Et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres-peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, ces mauvais jours-là finiront. Et gare à la revanche quand tous les autres s'y mettront. Pour les escrocs qui nous tiennent en laisse, j'ai traqué mes faiblesses. Pour les courbes qui se dressent et les armes qui se baissent, j'ai creusé les malaises à petit feu, en clamant mes aïeux et les lendemains qui ne chantent pas, déchirant nos enjeux, dénigrant nos pare-feux. Oui, mais ça branle dans le manche, ces mauvais jours-là finiront. Et gare à la revanche quand tous les autres s'y mettront. Par les temps qui courent, mieux vaut-il se coucher. cacher, rester trouble pour le temps qu'il nous reste. Mieux vaut-il rester sourd et attendre que tout cesse. Quand pourrons-nous deviner ce qui nous rend forts et utiles dans ce drôle de marasme où bizarrement tout semble fragile et futile. Oui mais ça branle dans le manche. Ces mauvais jours-là finiront. Égare à la revanche quand tous les autres s'y mettront.
Monsieur Barré ? Monsieur Barré ?
Chut ! Et la bonne dingue ?
Alors, vous êtes le boucher de Saint-Pons ?
Oui, je suis le boucher de Saint-Pons. Je suis bien autre chose puisque je suis gérant d'entreprise. J'ai une exploitation forestière. Vous voyez toute cette montagne là ? Je suis le propriétaire, donc ça rend énormément de jalousie à cause de la chasse, des champignons et enfin, tout ce qui suit. Quoi. Vous comprenez le contexte. Donc là j'ai un petit troupeau de chèvres. À la place de se promener une débroussailleuse à dos sur, avec des pépés et des mémés, il vaut mieux quand même clôturer. Et le travail se fait tout seul.
C'est les chèvres qui font le boulot.
C'est les chèvres qui font le boulot, voilà. Après il y a un peu de nourrissage. Hein. Pour rentrer chez moi, vous voyez, c'est pas luxueux. Voilà, asseyez-vous.
Et asseyez-vous, voilà, vous entrez, ami auditeur, AMG, chez M. Barré, donc le boucher de Saint-Pons, qui n'est pas seulement boucher, vous l'avez noté. Il y a une chose qui lui a à moitié plu seulement à M. Barré, boucher à Saint-Pons, c'est que il a été perquisitionné, ça lui a pas tellement plu, mais il n'a pas été arrêté et conduit à Montpellier comme les autres, et ça lui a pas plu non plus. Voilà les raisons.
Vous n'étiez pas là hier à la conférence de presse.
Alors j'étais à Montpellier, je me suis rendu à une réunion sur la régulation, pour la régulation du sanglier. Le sanglier est très mal géré, je ne critique pas trop les chasseurs de battues, hein. Je suis chasseur moi-même, mais pas en battue.
Donc en fait vous êtes allé défendre les propriétaires qui ont des bois, des forêts.
Voilà, ils sont d'abord ravagés par les sangliers, puisque dès qu'on plante, ils nous arrachent les plants. Ces messieurs ont quelques difficultés, soi-disant, à faire des battues, ou quand ils sont dans des battues, ils tirent à l'air, ils tirent par terre, mais ils ne tirent pas sur les sangliers.
Et donc, c'est pour ça que vous n'étiez pas présent à la conférence de presse.
Avec mes amis.
Alors, du coup, comme vous n'étiez pas là, Monsieur Blondeau, il a lu une lettre ouverte, en tant que boucher de Saint-Pons.
Je suis gérant d'entreprise. J'ai bien mis sur le communiqué que je suis gérant d'entreprise. Bon.
Alors, votre communiqué commence par...
Comme Jésus, je t'ai choisi, toi, Pierre, pour porter la bonne parole. C'est quelque chose de très fort. Jésus a porté l'image de l'amour, hein, et de la réconciliation des hommes.
Vous écrivez dans le communiqué, c'est le premier paragraphe, hein, qu'en août 98, déjà, vous avez eu le droit à une première intervention musclée. Peut-être que vous pouvez lire ce paragraphe.
Alors, irruption des brigades spéciales d'intervention des fraudes et de l'hygiène dans mon entreprise, devant des clients médusés, plaqués au mur. J'ai été plaqué au mur par ces messieurs. Je crie de toutes mes forces, à la Gestapo, mon crime. J'ai critiqué l'organisation de la fête de la châtaigne et du cochon. C'était marqué sur le papier.
Votre crime, c'était d'avoir critiqué l'organisation de la fête de la châtaigne et du cochon. Mais pourquoi vous aviez critiqué l'organisation de la fête de la châtaigne et du cochon ?
Alors, je suis content et très heureux que vous me posiez cette question. Je critique l'organisation de la fête de la châtaigne et du cochon parce que j'ai aidé ces gens-là à la mettre en place. Et à la sortie, ils vendaient, j'ai les preuves, j'ai un cossadouissier, plusieurs même, et ces messieurs vendaient jusqu'à 11 cochons sur la place publique, dans des machines, bien sûr, hein, toutes rouillées, ils coupaient la viande avec des couteaux rouillés, sur du bois, des trucs immondes, et c'est traditionnel, de la paille partout. Quand on vient dans mon magasin, me faire des prélèvements d'hygiène régulièrement, on me fait des prélèvements bactériologiques, enfin, on me pompe l'air, quoi. On pompe l'air de tous les gens qui travaillent en France, et je suis content que vous ayez ouvert la ligne. On casse les pieds à ceux qui travaillent.
Là, il y a 11 ans, vous critiquez la fête de la châtaigne et du cochon parce qu'en gros,
il y a des gens qui vendent du cochon dans des conditions sanitaires déplorables, d'après vous.
Oui, non, mais pas d'après moi. J'ai des constats ici, je peux le prouver.
Hein. D'accord. Et tandis que vous, qui êtes boucher, qui avez pignon sur rue, qui faites les choses au mieux dans votre magasin, on vient vous chercher des noises pour des broutilles.
Exactement. On veut que je serve la viande avec des gants. Mon père a servi sans gants, je continue à servir sans gants. J'ai des poulets rôtis, moi j'ai toujours laissé refroidir les poulets rôtis avant de les mettre dans les frigos. Maintenant, il faut les mettre dans une cellule de refroidissement, ça coûte 7000 euros. Alors, je viens être pris pour un couillon, hein. On m'a obligé à investir pour être aux normes soi-disant européennes, françaises. Nous, la France en a assez, les citoyens en ont assez, la République est en danger, et les travailleurs.
Alors là, en gros, à cause de ces critiques adressées à la fête de la châtaigne et du cochon, comme vous êtes une grande bouche,
exactement,
vous êtes ciblé comme opposant politique.
Il m'avait déjà ciblé, hein. Donc là, j'étais vraiment l'homme à abattre. Hein.
Vous êtes, depuis longtemps, un opposant à la municipalité.
Je suis né à Saint-Pons.
Vous êtes d'une vieille famille de Saint-Pons. Vous avez dirigé le club de boules qui était important à Saint-Pons.
Je dirige toujours le club de boules, mais ça on en parlera tout à l'heure si vous voulez, hein, de tout ce qu'ils m'ont fait sur le club de boules et au boulodrome couvert.
Vous êtes ciblé comme un opposant parce que vous avez critiqué la fête de la châtaigne et du cochon. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Ça faisait un petit moment que je voyais un petit remue-ménage autour de moi, qu'on me suivait, bon, mais, bref, des voitures, bam, on dit, tiens, tu te suis, tchac, puis la voiture disparaissait. Bon, on avait perquisitionné chez Pierre Blondeau. Pierre m'a dit, tu as vu, ils sont venus, ils ont pris des photos, ils ont dit qu'ils avaient les photos des gens qui fréquentaient la cigale. Donc là, j'ai dit, bon, ils vont venir chez toi. Quoi. C'était bon. Et 6h20, le téléphone sonne. Monsieur Barrette, est-ce que vous voulez venir nous ouvrir? Il y avait une dame qui était là avec une valise, enfin une serviette, et puis il y avait ces messieurs qui avaient la main sur le pétard, hein, au cas où je broncherais, hein, ou que j'arriverais avec un fusil.
Bon, j'ai eu la chance tout à l'heure.
Ça me plaît le jour, monsieur. C'est pas au milieu de la nuit. Hein. Bon, j'ai jamais tué personne. Hein. Je tiens à vous signaler quand même qu'on m'a tiré sur la maison. Hein. On a fait sauter d'abord la maison de M. Sanchez, l'ami personnel de Roc, puis on y a fait sauter le toit des Mutuelles du Mans, c'est son entreprise. Hein. On a mis de la merde humaine partout dans la voiture de Pierre Blondeau, et ça, il ne veut pas le dire parce qu'il en a eu honte, jamais. On y a passé, ils ont passé la boutique à la merde humaine. Est-ce que vous voyez un commerçant quand il arrive qui voit ça, qu'il faut le nettoyer? Et moi, on m'a tiré sur le toit de ma maison. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance saint-ponaise. Hein, venez habiter Saint-Pons, quoi. Hein. Nous sommes sur un état fascisant à Saint-Pons de Tourmières. Le canton est fascisé.
Bon, enfin, vous allez ouvrir la barrière.
Donc là, moi, je leur dis, je n'ai rien caché. Je vais tout vous ouvrir et vous allez tout savoir. Je vous signe où? Clac, et j'ai signé. Parce qu'il ne faut jamais s'opposer, on ne sait jamais. Après, il casse tout, hein, il faut bouleverser tout. J'ai dit, mais je vous avertis, hein, la perquisition, moi, je vous suis à la culotte. J'ai dit, vous allez remettre les choses en l'état, et si vous dérangez, vous rangez. Il faut le dire avant. Je préviens les futurs perquisitionnés. Hein. Ils sont arrivés au bureau, et au bureau, ils ont regardé à droite à gauche. Elle m'a dit, où est l'argent? J'ai dit, quoi? Le pognon. Parce que la campagne de Mesquida, c'est, vis-à-vis de moi, il fait du black. Il a de l'argent caché. Donc chez moi, on est venu chercher l'argent. Chez M. Chastain, c'était de la drogue. Hein. Donc le dentiste, qui c'est un type qui travaille, qui a des revenus, il achète deux grosses voitures, hein, une pour lui, une pour son épouse. Hein. C'est un trafiquant de drogue désigné. Donc on va chez lui, c'est le dentiste, c'est le machin. Bon, très bien.
Il perquisitionne.
Ils ont soulevé tous les tableaux pour chercher, bien sûr, le coffre-fort caché. Ils ont soulevé un calendrier mural.
Un calendrier mural. Alors là, on traverse votre cuisine, on passe devant le micro-ondes.
J'ai un peu la pagaille, parce que là, vous avez le calendrier qui est mural. Moi, parce que je suis un républicain, j'avais mis la Marseillaise dans son intégralité. Mon épouse, elle sort d'un milieu communiste. Hein. Mon beau-père était communiste, ma belle-mère est communiste. Bon, donc mon épouse, elle, ça arrive me dire, elle met l'international. Bon.
Donc sous le calendrier métro, il y a l'international.
Alors, la dame qui soulevait les trucs, là, elle fait comme ça, et elle s'écrit, l'international. Non, mais où on va, là? Alors moi, j'étais surpris, parce que je ne savais pas que mon épouse avait mis ça.
Donc hein. Là, sous le calendrier métro, la policière découvre un polycopier
un peu pâli de l'international.
De l'international. Donc elle a été outrée, elle a été choquée quand on l'a soulevée.
Elle pensait être chez un honnête homme.
Je considère Saint-Pons comme un notable, un nanti, hein, un homme riche. Hein.
Un voilà. Honnête commerçant. Et elle découvre l'international.
Elle découvre l'international. De plus, mon épouse dit, j'ai gardé maman pendant 4 ans qui avait la maladie d'Alzheimer. Je l'ai gardée ici, dans ce bureau. Bon, on l'avait transformée en chambre. Elle couchait pendant 4 ans à côté d'elle. Et bien sûr, la belle-mère, la seule chose qu'elle se rappelait, c'était l'international. Quand ça l'apprenait, comme ça, qu'elle avait un moment un peu de lucidité, elle se mettait à chanter l'international. Alors, des fois, c'était à table, des fois, c'était... Bon, vous avez compris, elle venait se dormir. Bon. Et mon épouse, elle l'accompagnait, parce que, bon, des fois, elle butait sur les mots. Donc, il faut travailler l'esprit quand on a l'Alzheimer. Et comme elle se souvenait que cette chanson, elle s'obligeait à chanter avec elle pour qu'elle arrive au bout, quoi. Et après, elle voyait le visage radieux de ma belle-mère. D'avoir réussi à chanter une chanson qu'elle avait entendue depuis qu'elle était toute petite, quoi. Mon épouse, elle me regarde toute confuse et elle leur dit, je la chantais plusieurs fois avec maman pendant 4 ans.
Elle n'a pas été mise en garde à vue pour ça?
Non, je ne pense pas, parce que je suis intervenu, j'ai dit, il y a un problème, enfin, je n'étais pas content du tout. Hein, parce que si c'est détenir une chanson, de suite on est un terroriste, il faut arrêter la casse. Hein.
C'est la lutte finale, groupe en nous et demain la terre.
Et donc après ça, ils vous ont laissé tranquille les policiers ou bien qu'est-ce
que... Ah mais pas du tout, pas du tout. Les chèvres, parce que j'ai donné à mes chèvres le nom des conseillers du conseil municipal de Saint-Pons. J'avais le bouc qui s'appelait Clébert, hein, ce qui était dans la logique.
Vous allez les voir, les chèvres?
Oui, tout à fait, je vais les appeler, même si vous voulez. Il y a réunion de conseil municipal tous les matins, je les soigne.
Vos chèvres?
Je soigne mes chèvres, voilà.
Il n'y a pas de chèvres là, si?
Si. Misou! Misou! Misou!
On les voit pas venir.
Mais oui, parce que le conseil municipal belle pendant les séances, donc... Mais
voilà les chèvres qui accourent, des belles chèvres blanches.
Et puis Misou, c'est la dernière, comme d'habitude. C'est la mauvaise élève de la classe, n'est-ce pas? Regardez.
C'est la dernière phrase de votre communiqué. Vous dites « Je suis très fier d'avoir fait partie de la charrette Saint-Ponaise, donc
oui.
De ceux qui ont été pris dans les perquisitionnés de Saint-Pons. Je regrette seulement de ne pas avoir fait partie de la charrette qui est partie à Montpellier. »
Oui, c'est une désertion par rapport aux citoyens qui sont allés, quoi. C'est vraiment une désertion, quoi. Ils m'ont pas pris à moi. Alors qu'ils avaient encore 2 places de libre. Je crois qu'ils devaient en amener 11, ils n'en ont amené que 9. Et donc ils avaient encore 2 places dans les cellules. Parce que ça aurait fait quand même désordre de mettre en garde à vue le vice-président du CREPF Languedoc-Roussillon, centre régional de la propriété forestière du Languedoc-Roussillon.
Là, vous dites un peu, il y a une justice de classe quand même, parce que Pierre Blondeau, qui est juste le patron du tabac La Cigale, le maçon Saïd, on l'embarque, mais moi qui suis propriétaire terrien, on vient certes me perquisitionner, mais on ne m'emmène pas à Montpellier.
J'ai droit à une perquisition de 7 heures et je regrette qu'on ne m'ait pas pris parce que je pense que l'affaire aurait pris une autre tournure.
Il aurait pu y avoir une fronde des propriétaires terriens du Languedoc-Roussillon.
Je pense. C'est pour ça que j'ai soutenu la gauche des gauches, je les soutiendrai toujours, malgré que les policiers m'aient dit « Il ne serait pas souhaitable, Monsieur Barret, et je le cite, que vous continuez à fréquenter la Cigale ». J'ai regardé et j'ai rigolé. Le lendemain matin, j'étais le premier à aller embrasser Pierre. Quoi. Et à partir d'aujourd'hui, il a lu mon communiqué. Je peux déclarer ouvertement, je suis l'ami de Pierre. Ça m'a soudé auprès de lui.
Maintenant, la police, elle vous dit ce que vous devez chanter et pas chanter. Et elle vous dit aussi les endroits que vous devez fréquenter et pas fréquenter.
Voilà. Ça m'a vraiment pas plu. Parce que ils me l'ont dit à moi... Ils l'ont dit à tous les membres du MEP, et il me semble que ce n'est pas comme ça que la France doit fonctionner. À Saint-Pons, on avait réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, tout le monde était la Cigale. Et quand on veut s'exprimer à Saint-Pons, eh bien on écrit sur la commune. Donc le notaire représentant du MEDEF, c'est un poids, représentant du MEP à Saint-Pons, corrige les textes juridiquement de Pierre Blondeau. J'ai jamais vu ça, moi j'ai jamais vu, dans aucune autre ville, hein, j'ai jamais vu quand même le président du Lions Club, M. Collet, boire son café, aller déjeuner dans l'arrière-boutique de Pierre. Vous avez l'anarchiste Blaiseau qui va parler avec Collet qui boit son café. Et je fais un appel aux membres de l'UMP, à tous ceux qui ont été perquisitionnés. Allez à la Cigale, vous deviendrez français et des citoyens.
On est en République. Répertoire Montéus. Enfin, ça y est, on est en République. Tout marche bien, tout le monde est content. Le président, ça c'est symbolique, ne gagne plus que 100 000 francs par an.
C'était un reportage de François Ruffin du 17 septembre 2009. Merci à Dimitri, à François, à Marcel, aux copains du bar tabac La Cigale à Saint-Pons-les-Thomières. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Julien Chabassu, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterde. Ils sont assistés d'Agnès Lebotte, chef du répondeur, Catherine Pinto. Et un numéro pour le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.